7h30, 9h30, Radio MDM.
Anthony Lecoq, le jour se lève encore.
Le jour se lève encore.
Bonjour.
Bonjour Lecoq, comment allez-vous?
Salut Baxter. Ouais. M'en parlez pas, j'ai le syndrome Romain Baxter.
Fiche, vous n'avez pas le syndrome de l'orangerie? Non.
Alors ça c'est le livre
Je crois, il me semble.
Dont on va parler avec Aurore Pourny, mais j'ai le syndrome Romain Baxter, c'est-à-dire que j'arrive en retard.
Qui est... Oh.
Alors moi je me suis pas fait... je me suis pas fait gauler au téléphone en bagnole.
Voilà.
Mais ça serait trop long à vous raconter c'est surtout pas intéressant. Bonjour vous.
Bonjour.
Comment ça va?
Écoutez, c'est bien.
Quand on a une raison avec un alibi en béton que la police peut certifier, ma foi...
Règle le mot alibi, il est suspect, voyez-vous. Le syndrome de l'orangerie, où est Aurore Pourny? Il faut qu'on parle de ce bouquin, moi j'ai envie d'en savoir. Et les gens doivent savoir également.
Également, grâce au journalisme français, la vérité éclatera.
C'est du journalisme intégral, c'est du journalisme frontal. J'y vais.
Moi, je vais réceptionner des bières.
Eh ben oui, on a des bières à réceptionner.
Chacun son job.
Ah ben, c'est ça, la pluridiversité activité. Mais oui, mais
pourquoi elle tease?
On tease des livres, Non, oui.
Ah oui, vous bingez des bouquins.
Ben, on binge read.
C'est horreur. Il me fatigue, je suis là depuis 30 secondes. Le syndrome de l'orangerie.
On y va.
On va y aller?
Ouais.
Allez,
direct.
Eh ben...
L'orangerie, c'est par là.
MDM. Tout un monde.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Cette même personne m'a dit que j'étais un illettré, qui veut dire homme de lettres, en italien.
Alors, la gueuse de Camus, la vilaine de Camus, la peste de Camus, la mégère de Camus.
Réponse D, la mégère.
Et donc on disait quoi? Cuticule.
Ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux?
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Je suis interpellé. Je suis totalement interpellé. Qu'est-ce que c'est, ou interloqué? C'est quoi cette histoire de le syndrome de l'orangerie? Alors, c'est très marrant. Enfin, c'est pas non plus hilarant. J'étais en train de me dire, j'irais bien faire un tour à Paname, du côté, je crois que c'est Place de la Concorde, qui a le musée de l'orangerie, parce qu'il y a une expo de Berghuen bientôt, je crois, en octobre. Et là, il y a un bouquin qui arrive, c'est le syndrome de l'orangerie, du nom du musée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce livre?
C'est tout à fait ça. Je me suis fait exactement la même réflexion. Monet, l'orangerie, les nymphéas, j'ai absolument envie d'aller les voir. Je ne l'ai jamais vu. Et là, un livre arrive à Mont-de-Marsan sur le sujet. Il faut absolument que je lise ça. Oui. En plus, par Grégoire Boullier, qui est un auteur. Alors que l'intelligentsia parisienne classe dans le genre autofiction, ce fameux genre...
Le météo.
Très, très prisé des rentrées littéraires. On imagine l'autofiction comme étant auto-centré et chiant, ce qui n'est pas du tout le cas de ce roman, donc je ne le classerai pas là. Mais cela dit, alors, pas évident à parler de ce livre. Effectivement, Grégoire Boullier part de lui en tant qu'auteur, pour aller vers un sujet qui est assez étonnant cette rentrée littéraire, que sont les nymphéas de Monet, qui sont donc à l'Orangerie à Paris. Certes.
C'est le tableau qui est au cœur du bouquin.
C'est le point de départ de cette longue digression que nous fait Grégoire Boullier, comme il sait faire jusque-là, parce qu'il a commis énormément de livres, dont le dossier M, qui fait pas loin de 3000 pages, une digression de 3000 pages, oui, c'est ça. Donc, le classement dans l'autofiction s'arrête là. On part de lui pour aller visiter les nymphéas.
Et alors, parce que tout le monde n'a pas fait Histoire de l'art, moi non plus d'ailleurs, est-ce qu'on peut resituer cette œuvre?
Il en est question tout le roman, donc oui, c'est le propos du livre et en même temps ça ne l'est pas. On va suivre, donc Grégoire Boullier incarne le détective B. Mort. C'était un détective qui déjà intervenait dans son précédent roman, Le cœur ne cède pas. Notre détective B. Mort visite donc l'orangerie où sont exposées les 8 immenses panneau des Nymphéas de Monet qu'il a peint pendant la Première Guerre mondiale.
C'est le temple de l'impressionnisme, on va dire.
On va y arriver, va y arriver au syndrome. Donc, notre héros visite l'orangerie. On nous dit que c'est une ode à la vie, une ode à la nature, c'est à la joie et à la beauté. Notre héros sort de ce musée avec un énorme malaise. Il se sent mal et il ne comprend pas pourquoi. Il est déstabilisé et il est persuadé que si on enlève tous les mots, si on enlève tout le langage, tout ce qu'on a pu entendre sur les nymphéas, lui, il lui reste un malaise. Il est persuadé qu'un mort se cache parmi ces nymphéas de Monet. Il va mener l'enquête. C'est le début de l'histoire. Et effectivement, donc
l'enquête historique.
Il va monter l'enquête. Donc il va remonter évidemment tout ce qu'on sait des nymphéas et comment elles ont été peintes. Il les a quand même peintes pendant la Première Guerre mondiale. Donc on était quand même dans un contexte où les morts étaient nombreux. C'est aussi une période où Monet a perdu ses deux enfants. Donc on est dans cette espèce de lourdeur, la mort rôde. Ouais. J'ai l'impression de parler d'un livre qui est plombant et qui est lourd à lire, alors que pas du tout, c'est une bouffée d'air frais, c'est hyper drôle. Il fait des digressions à n'en plus finir, des digressions comme je les aime, je vais vous en lire une quand même. C'est aussi le moyen pour lui d'aller nous parler de l'actualité, comme je vous l'ai dit, d'aller parler politique, on va parler de tout ce qu'il déteste, les mensonges, les faux-semblants. Donc par exemple, il peut nous écrire quelque chose comme... On parle du moment où Monet est en train de devenir aveugle, parce que Monet devient aveugle aussi à ce moment-là. Vous voyez, c'est quand même ambiance...
Ah oui, non, on sent bien qu'on a oublié les cotillons.
Alors que pas du tout. Cela l'embête terriblement de devenir aveugle, dit-il de lui-même Monet. Cela l'embête terriblement de devenir aveugle. Moi, ce qui m'embête terriblement, c'est de trouver au restaurant un cheveu dans mon assiette. Brrrk. Ce sont les micro-trottoirs. C'est le chien des voisins qui n'arrête pas d'aboyer. Ce n'est pas devenir aveugle. Il faut croire qu'à l'époque, on encaissait autrement les coups durs. On n'en faisait pas des caisses. On n'avait pas besoin du mot « résilience ».
Ah oui.
Voilà, c'est comme ça tout du long.
Ouais, c'est un mot qu'on entend à tort et maintenant et à travers, voilà, comme l'ADN d'une collectivité.
Bon, là c'est juste un tout petit, un micro-exemple sur tout ce roman. Toutes ces petites piques sont lancées tout du long. C'est pour ça que c'est hyper drôle. Il s'amuse beaucoup, Grégoire Bouillet, nous avec. Il nous prouve aussi la force de la joie. Il nous dit aussi, en substance, qu'on part du principe que le rire, c'est l'affaire du divertissement, c'est l'affaire du léger, et que le sérieux, le malheur est profond, le malheur est sérieux, le sérieux sert l'intelligence. Il nous prouve complètement l'inverse, qu'on peut se marrer et dire des choses profondes aussi, et ce tout du long. Voilà pour ce roman. Alors je cite quand même parce que il fait la une du Matricule des Anges, qui est la revue littéraire à ne pas manquer. C'est hyper drôle.
Okay.
Hyper drôle. Et en plus, on apprend énormément sur, évidemment, Monet et l'impressionnisme.
C'est un des bouquins de la rentrée. Il n'y a pas forcément, je le disais, être un expert en art ou en impressionnisme. Le syndrome de l'orangerie, signé Grégoire Bouillet, aux éditions Flammarion. On se fait une petite pause, une fulgurance, un petit truc là qui dure deux minutes, sur lequel on chante ou on danse. Et on se retrouve juste après en terre promise. Au pluriel. Seconde partie de notre rendez-vous désormais le vendredi avec le réseau librairie Caractère Social Club et la rentrée littéraire, donc forcément foison de bouquins, à commencer par des premiers romans, on y vient, mais un rendez-vous aussi du côté de Vieux Boucaux, traditionnel rendez-vous avec le oui. Polar.
Le Polar se met au vert qui aura lieu ce week-end, donc c'est un événement qui a lieu tous les deux ans autour du genre polar organisé par la médiathèque départementale des Landes. Et Caractère notamment et d'autres libraires seront présents. Pendant deux jours, ce sont des tables rondes sur le... Alors, avec le polar comme genre en toile de fond, mais avec des sujets bien précis. Cette année, pas mal d'écologie, pas mal de jeunesse. Les ados aussi ont le droit à leur polar. Et ça fait du bien de lire des enquêtes et des meurtres à résoudre par des...
On va présenter comme ça.
Mais non, mais j'adore. Ça va être génial. Il va y avoir notamment des tables rondes sur femmes violentées, femmes révoltées, menées par R.J. Ellory, qui est un des grands maîtres du polar américain actuellement, et d'autres. Il y a également une table ronde sur les faits divers, est-ce une source d'inspiration, par notamment Pascal Dessin et Michel Moati. Il y aura également une table ronde sur la fracture sociale et l'impunité des puissants et comment le polar gravite autour de la partie sociale, des dictées aussi et des balades dans la ville. Donc tout ça autour du polar et évidemment la librairie Caractère sera de la fête.
Tout au long du week-end et avec vous, donc il sera a priori hein, pas question de Bénédicte Dupré-Latour.
Non, mais cela dit, ce roman est vraiment étonnant. Alors,
Terre promise.
Terre promise par Bénédicte Dupré-Latour aux éditions du Penseur. Les éditions du Penseur sont un petit éditeur qui a 5 ans maintenant. On avait déjà reçu à la librairie Anouk Legzik pour les carnets d'une bûcheronne et on avait aussi reçu un autre auteur autour de son roman Minuit sur le monde. Donc, les éditions du Penseur sont très présentes à la librairie Caractère. On adore leur texte.
Penseur PAN.
Aussi. Donc, Terre promise est un premier roman. Donc là, du coup, on est loin, mais vraiment très loin de l'autofiction. C'est le roman limite d'aventure, le romanesque dans ce qu'il y a de plus beau. On est à la limite du western. Non, c'est un western. Pour vous en parler rapidement, il s'agit de la conquête de l'Ouest, mais pas par les vainqueurs. Plutôt par ceux qui se sont fait emporter par cette ruée, ruée vers l'or. Mathieu Lindon, dans Libé, va dire « C'est plutôt dans ce roman la défaite de l'Ouest et la ruade vers l'or. Ah. » On est vraiment dans ce flot de gens qui se font complètement emporter par cette fameuse ruée.
Il y a qui au milieu de ces gens ?
Alors, au milieu de ces gens. Parce que c'est un roman choral, donc c'est-à-dire qu'on va incarner à chaque fois un personnage différent. Il y en a au moins 7 dans le roman. Ça n'est pas un recueil de nouvelles. Toutes ces voix vont petit à petit s'imbriquer, s'entrechoquer. Le lien va se faire peu à peu. Et donc, on va découvrir ces petites vies minuscules, mais qui ont fait cette conquête de l'Ouest. Il va y avoir, par exemple, la prostituée au fin fond du village qui a été créé juste pour aller chercher cet or. On va suivre l'Indienne, qui vivait là au début. L'orpailleur, qui est rendu fou par l'appât de l'or. Mais aussi l'épouse du colon. À cette époque-là, évidemment, les épouses, dès qu'elles étaient en âge de procréer, c'est-à-dire vers 14 ans, était marié de force. Il va y avoir aussi le déserteur, celui qui dit que non, il y a quand même mieux à faire, mais il ne fallait pas déserter à cette époque-là. Le révérend aussi. Donc on va suivre tous ces petits personnages qui ont fait cette grande histoire-là. C'est l'humanité, l'intimité de ces gens qui vont nous raconter donc la grande conquête de l'Ouest. Donc Bénédicte Dupré-Latour nous raconte la violence, l'exil, qui sont aussi des sujets fort d'actualité.
Et elle fait se croiser les histoires de chacun.
Les histoires finissent par s'imbriquer les unes aux autres.
J'adore ça.
Et on va être pris dans une espèce de spirale presque sans fin, qui rend ce roman vraiment brillant. Il n'y a aucun folklore dans ce roman. On est vraiment loin du cow-boy et des Indiens, on est loin du Lucky Luke. C'est vraiment l'intimité de ces petites gens. C'est des fois macabre, des fois glauque, mais c'est d'une grande, grande beauté. Tant et si bien que ce roman fait partie, ce premier roman, de la sélection du prix hors concours, qui est notre prix préféré à la librairie.
Je vous rappelle.
C'est le prix littéraire de tous les éditeurs qui ne sont dans jamais aucun prix parisien.
Vous aimez ça,
oui.
Être un rebrousse-poil.
Ouais, et oui, tout à fait. Il s'appelle le prix hors concours. Donc, ça permet de découvrir énormément de micros et de petits éditeurs et des textes qui sont toujours étonnants. Et Terre Promise en fait partie.
On souhaite vous encourager. Pour ce qui est de la culture, hein, attention, je précise, à ne pas suivre ce que vous recommandent tous les sachants, mais peut-être Aurore Pourny. Terre Promise, Bénédicte Dupré-Latour, c'est la grande histoire de la ruée vers l'or aux éditions du Penseur. On a fait le tour ?
On a fait le tour.
On a fait le tour, la rentrée littéraire, on a fait le tour, il faudrait faire une radio. Radio L.
La radio littéraire.
La radio littéraire. On vous met les noms, prénoms, éditions en réseau et on se retrouve hyper rapidement.
Mais oui.
Parce que c'est important.
C'est important, oui, de lire.
Et on va s'arrêter là.
À
très vite, Aurore. Merci.